Alors, premier sujet ce matin, bon, dans la foulée de ce qu'on appelle les règlements de compte autour de Geneviève Guilbeault, puis les attaques qui arrivent de tous les côtés, il y a évidemment son attitude face à des employés qu'elle a congédiés en disant qu'ils étaient incompétents. Et la question qu'on pose ce matin, est-ce qu'on congédie des gens qui ne sont pas capables de suivre la cadence ou encore est-ce qu'on est devenu un peu trop exigeant? Alexandre.
C'est une mise en situation accélérée. Geneviève Guilbeault prend un rôle extrêmement important dans un gouvernement. Vice-première ministre, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui inspire énormément confiance. Et elle prend une décision qui est certainement très difficile parce que c'est pas drôle là, de travailler dans un cabinet avec des gens avec qui on s'entend pas. Je suis sûr que c'est pas une situation qui a été facile et c'est pas une situation qui est arrivée hier. Alors, de prendre cette décision-là, c'est dur. Mais de là à sortir dans les médias après une conférence de presse pour dire « Hey, je les ai mis dehors parce qu'ils étaient incompétents », malheureusement, ça démontre un certain novice. Il faut qu'elle se reprenne en main. C'est quelqu'un qui est important. C'est une figure de proue pour les femmes au Québec. C'est quelqu'un qui inspire confiance. Et je suis certain que ce genre d'expérience-là, parce qu'elle va se faire ramasser, Denis Lessard n'était pas tendre avec elle ce matin. Il rapportait les commentaires de nombreuses personnes qui travaillent dans son entourage. Je suis sûr qu'elle va être capable de se reprendre. Maintenant, est-ce qu'on est dur en politique particulièrement? C'est un travail 24 heures sur 24. T'es un attaché politique aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on prend des jeunes de 22, 23, 24 ans parce que c'est une job qui est 24 heures sur 24. Et bien sûr, il y a des gens d'expérience qui sont là. Les trois qui ont quitté sont des gens d'expérience, étaient des gens d'expérience. Et là, probablement que le week-end, on essaie de laisser tomber son téléphone un peu. Alors, je trouve pas ça déraisonnable, mais il reste que la politique est un sport extrême et ça va être très, très difficile pour quelqu'un qui veut travailler là-dedans de faire autrement.
Moi, je pense que Mme Guilbeault, elle a rien compris. Puis Alexandre, t'as raison du temps de la perche. Elle a dit, bon, écoute, elle a le droit à une deuxième chance, puis c'est pas ça qui va mettre fin à sa carrière. Mais par contre, sa gaffe, c'est pas la gaffe d'une personne qui renvoie un collègue de travail ou un employé dans le privé. Là. C'est pas la même chose. Quand tu arrives au gouvernement, il y a... Tu sais comment ça fonctionne, le gouvernement? Les auditeurs le savent peut-être, toi tu le sais, mais les auditeurs le savent peut-être pas. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de fonctionnaires. Ils sont dirigés par une machine administrative avec des chefs de division, des directeurs adjoints, des directeurs généraux. Ces gens-là font leur travail séparément du gouvernement. Le gouvernement, il n'est pas à la tête de la fonction publique, il est à côté de la fonction publique. Le lien entre le gouvernement, les élus, puis cette grosse machine-là, avec beaucoup, beaucoup d'avocats, dans le cas de Mme Guilbeault, beaucoup, beaucoup de contentieux qui leur disent quoi faire puis pas quoi faire, c'est les attachés politiques, c'est les directeurs de cabinet. Eux, ils disent, ben, Mme Guilbeault, non, ça, on peut pas, la loi l'empêche. On peut pas faire ça, on peut pas demander ça à la machine administrative, la loi l'empêche. On peut pas faire cette réforme, on peut pas renvoyer cette personne-là demain matin, sa convention ou son contrat le permet pas. On peut pas faire ça de telle façon, on l'a essayé il y a 4 ans, ça marchait pas. Et là, les directeurs de cabinet, ça c'est la machine administrative qui dit ça, les directeurs généraux, etc. Puis les directeurs de cabinet, ils ont une mémoire de ça. Puis tout le travail du ministre, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire parce que j'arrive en poste puis je veux faire changer les choses, puis qu'est-ce que je peux pas faire. Puis le directeur de cabinet, il l'aide à faire ça, en disant, essaye, va pas par là, on l'a essayé il y a 4 ans, ou ça marchera pas. Si tu mets le directeur de cabinet dehors, plus les deux attachés, puis après ça, tu dis que ce sont des incompétents, mais là, tu viens de casser ta relation avec la machine administrative, puis pas juste les directeurs de cabinet que tu as mis dehors, tous les directeurs de cabinet du gouvernement. Si elle a fait ça, le gouvernement, là, Legault, là, ce qu'il a dû faire, là, le lendemain matin, c'est dire à tous les directeurs de cabinet, je vous rassure, elle a fait une erreur, les autres ne feront pas la même erreur. On est désolé. C'est grave ce qu'elle a fait. Mais l'impatience dont elle a fait preuve, elle n'est pas la seule à en faire preuve. Jolin Barrette, qui passe pour le premier de classe, puis qui passe pour le gars qui a tout réussi, il a torpillé ses dossiers avec le fédéral un par un à cause de la même impatience. Son dossier avec l'immigration, là, il doit prier pour que les conservateurs soient élus parce qu'il s'est trompé terriblement sur les pouvoirs du fédéral, les pouvoirs du Québec. Il s'est tiré d'un pied avec l'opposition en faisant le baillon. C'est un gouvernement impatient. On les comprend, c'est des réformateurs. C'est correct, on comprend ça. Mais là, il va falloir qu'ils s'ajustent un peu.
Il y a une confrontation qui existe souvent entre les directeurs de cabinet et le personnel politique et le ministre, parce que c'est souvent le premier ministre qui va déterminer, ou l'entourage du premier ministre qui va déterminer qui vont être ces personnes-là. Alors, cette décision-là de Geneviève Guilbeault, c'est aussi, je pense, un geste autonomiste de sa part qui envoie un message. Regardez, je suis vice-première ministre. Et le poste de vice-première ministre, pour avoir parlé avec certaines vice-premières ministres dans le passé, c'est pas toujours très simple. C'est-à-dire que c'est souvent un rôle de remplacement dans des événements, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on fasse partie du cercle politique, du cercle restreint politique. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a cette dualité-là qui existe aussi entre Jeanine Barrette et Geneviève Guilbeault, qui est une lutte d'influence auprès du premier ministre, et ça va être très intéressant de suivre ça.
Je vais soulever un commentaire que j'ai lu souvent ce matin, puis en fait depuis hier, là. Si c'était un homme, est-ce qu'on aurait la même discussion? Parce que beaucoup y voient comme c'est une femme, c'est du bashing de femme, puis là on décide de dialecte des potins comme ce matin, puis elle fait ci, puis elle fait ça, puis elle est jalouse. Puis... Pensez-vous que ça joue?
Non, moi, je pense pas que l'opinion qu'on a émise ce matin est liée au fait qu'elle soit une femme. Elle a un devoir, parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est vice-première ministre, un devoir d'exemplarité. Et on s'attend à un parcours sans faute, ou du moins avec le moins de fautes possible.
Écoute, il y a eu beaucoup de femmes autoritaires dans les gouvernements, à commencer par Thatcher en Angleterre, mais ici au Québec, là, Mme Marois, elle ne laissait pas beaucoup de marge de manœuvre à personne. Monique Jérôme Forget ne laissait pas beaucoup de marge de manœuvre. Avant elle, Mme Bacon ne laissait pas beaucoup de marge. Il y a une différence entre être autoritaire, puis je parle Michel Courchesne et compagnie. Donc, toujours est-il que il y a une différence entre être autoritaire, mettre son autorité, asseoir son autorité, avoir des intentions claires, les faire valoir, puis crier à tout vent. Puis là, le crier à tout vent, là, elle ne se rend pas service à elle-même, elle ne rend pas son service au gouvernement, elle ne rend pas service aux autres femmes en politique, parce qu'effectivement, ça donne une image qu'on ne veut pas avoir. Parce qu'on la critique trop facilement, cette image-là, quand c'est une femme. Donc, je pense qu'elle a compris le message, puis qu'elle va se raplomber un peu.
Alors, voyons voir aussi où va aller la proposition de Gabriel Nadeau-Dubois. On s'en souvient, hein, qui veut aujourd'hui instaurer une espèce de norme de paix numérique. Je pense que cette discussion-là, il va falloir qu'on l'ait aussi comme société.
Quoi, ça, la paix numérique?
La paix numérique, c'est-à-dire la fin de semaine, regarde, dérange-moi pas, c'est pas parce que j'ai un téléphone.
Oublie ça, Alexandre, oublie ça.
Ouais, mais...
Oublie ça tout de suite, ça se produira jamais.
Ça, là, c'est un rêve.
Moi, je suis un peu utopiste.
T'es toujours branché, il y a toujours des réactions, il y a une nouvelle qui sort, puis quand tu serais dans le cabinet politique, qu'est-ce que tu veux, c'est ça? Puis ton boss... Puis, en tout cas, moi, je pourrais te raconter des anecdotes, des ministres qui téléphonent à 23h le soir au chef de cabine.
Ben
c'est
oui.
Pas toujours pour des grands dossiers politiques, là.
Non, c'est parce que telle affaire, je la sens mal. Ou l'autre m'a parlé à 5 heures, puis devine ce qu'il m'a dit. Parce que c'est ça aussi, la politique, là. Tu sais, c'est pas juste on a tel dossier à régler demain matin.
Mais je peux-tu dire
juste une petite affaire, là? Il y a eu un sondage qui est sorti au printemps 2018, donc qui faisait état de ce qui est des relations de travail au sein de l'Assemblée nationale avant que la CAQ arrive. Et c'était loin d'être rose. La relation dont je parlais entre les chefs de cabinet, le personnel politique, le personnel administratif, les fonctionnaires et l'État, c'est toujours tendu parce que les gouvernements veulent tout le temps essayer d'annoncer quelque chose lundi parce qu'il n'y aura rien d'immédiat.
Mais je vais dire une chose. Ouais. La machine aussi, des fois, regarde le ministre en disant, il est là pour combien de temps?
Ouais, c'est clair.
Puis, tu sais, moi, je comprends des ministres de dire, moi, je vais pousser. Puis c'est pas vrai que la machine va m'empêcher de faire ça.
Écoute, c'est clair. Puis il y a des machines... Tu sais, peux-tu te donner les façons dont moi j'ai vu à Ville-de-Montréal comment bloquer des projets? T'sais, un, on n'a pas le budget. Deux, on n'a pas les avis juridiques, puis la machine juridique est bloquée, on n'est pas capable de donner l'avis juridique. Trois, il faudra qu'on fasse des études. Quatre, ça ne correspond pas aux politiques qui ont été annoncées avant. Il faudrait d'abord que tu annonces une nouvelle politique avant de faire ces actions-là. Il y a des gens qui sont bloqués pour toujours, là. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'avancer. Fait que c'est ça, un chef de cabinet, il faut qu'il te donne les recettes sur par où tu peux passer. Puis là, elle vient de nommer un petit jeune avec elle, puis elle vient de mettre les personnes qui ont de l'expérience dans les poubelles.
On s'arrête là-dessus. Au retour, est-ce que c'est une bonne idée que la commission scolaire English Montreal, dans le fond, qui prend l'argent des taxes, poursuit le gouvernement du Québec?